Chapitre 2e. Excursion dans l'intérieur. Le vrai nom des Dinka. Détails sur cette tribu. Physionomie de la contrée. Moyens de transport. Un phénomène végétal. Négociation orageuse. Sociabilité des Noirs. Dès le matin du 27, j'envoyai donc à la recherche des moyens de transport pour des marchandises et les provisions nécessaires à un voyage qui pouvait être de longue durée, et je réussis non sans peine à me procurer une quarantaine de Noirs, les bêtes de somme n'étant pas connues dans ces pays. Ayant donc mis ordre à toute chose, bien approvisionné de munitions, accompagné des soldats et de 7 mariniers armés, ainsi que de 2 drogman, après avoir fait mes adieux dans toutes les barques, je partis à 5 heures de l'après-midi, me dirigeant à l'ouest. Mais je fus bientôt forcé de traverser à gué, avec toute ma caravane, un petit lac dont l'eau, à certains endroits, m'arrivait jusqu'au cou. Poursuivant notre marche, nous arrivâmes vers les 9 heures à un village appartenant aux Rik, tribu d'Inka, où nous passâmes la nuit. Je dois faire observer ici que la grande famille des Dinka n'habite pas seulement la rive droite du fleuve Blanc et l'intérieur de l'île de Khartoum, en s'étendant à plusieurs journées de marche dans l'intérieur du Soba, mais encore à l'intérieur du Bahr el-Ghazal, où règnent les mêmes usages et de plus la même langue, à quelques exceptions dues peut-être à la transmigration. Une preuve en est le nom de Mondjian qu'on s'y donne. Leur langue est en effet équivalent à celui des Dinka de l'intérieur de l'île. Mais quelques questions que nous leur avons faites pour savoir s'ils se connaissaient réciproquement, ils affectaient la plus grande ignorance à cet égard, quoique je sois très persuadé du contraire, malgré la grande différence physique qui existe entre eux, et quoique ceux du fleuve Blanc soient très subtils et très voleurs, tandis que ceux du Bahr el-Ghazal sont d'une complexion meilleure, et si l'on peut dire ainsi, plus appropriés, moins les nomades que l'on appelle Bagara, nom donné aussi aux Arabes nomades, parce qu'ils sont constamment au milieu de la cendre des feux que l'on allume dans les parcs des bœufs pour les préserver des importunités des insectes. Nous partîmes le 28, de bonne heure, traversant sans cesse des bois dont le plus petit n'exigeait pas moins d'une heure de marche, et nous entrâmes dans le pays des Adjak, le peuple le plus sauvage de tous les Dinka. Ils nous en donnèrent une preuve en voulant m'empêcher de m'arrêter près de quelques arbres églig, l'arbre de l'éléphant, sous prétexte qu'à l'ombre de l'un d'eux était enterré un de leurs saints. Mais voyant que nous nous disposions à prendre les arbres pour leur donner une leçon, ils jugèrent prudent de se retirer, et ils nous laissèrent nous reposer en toute paix pendant les heures accablantes de chaleur du milieu de la journée. À 3 heures, nous nous remîmes en route sous les égligues, les tamarins, les cacamoutes, les guimèches, les djorans et autres sortes d'arbres énormes, et à la nuit nous arrivâmes en vue d'un village, d'Adjak probablement, où nous campâmes. Le 29, je repartis de bonne heure et continuai mon voyage à travers des champs de roseaux secs et de paille de la hauteur d'un homme et plus, et ce fut à peine si nous rencontrâmes vers les 9 heures un puits où nous arrêtait quelques minutes pour faire reposer nos gens et étancher la soif qui commençait vraiment à m'inquiéter. Après quoi nous nous remîmes en marche pour atteindre à 11 heures un grand village d'Erik épuisé de fatigue par une course de plus de 6 heures sur une route exécrable. Nous repartions à 2 heures de l'après-midi et, par de petits bois si voisins l'un de l'autre qu'ils n'en formaient en réalité qu'un seul, nous arrivâmes à la chute du jour au premier village des Awan, Dinka, où nous fîmes halte pour la nuit. J'ai oublié de noter que pour s'approvisionner des choses nécessaires, surtout dans de semblables pays où l'on ne connaît d'autres moyens de transport que les Noirs, à chacun desquels on peut imposer une charge de 50 ou 60 livres de coulerie, de verroterie ou d'autres choses dans des paniers cousus, il convient à chaque village d'acheter du grain, du bois, de l'eau et quelquefois de la viande en échange de verroterie, et attendu que ces transactions font perdre beaucoup de temps, on est forcé de s'arrêter avant la nuit, les Noirs ne sortant jamais de leur case après le crépuscule. Le 30, une heure avant le lever du soleil, nous partîmes, et par une route bien meilleure que celle des premiers jours, tantôt traversant de magnifiques forêts, tantôt passant de très grandes bourgades ombragées de tamarins, de guimzais et d'autres arbres colossaux, bourgades qui par leur disposition et la belle forme conique de leurs tucules, les cases de paille, ont un aspect réellement panoramique, nous arrivâmes à 11 heures du matin à un grand et beau village des Awan. M'étant porté en avant pour choisir une place convenable, j'eus le bonheur de trouver un immense figuier sauvage, guimsé dans l'intérieur duquel croissait un duleb, une espèce de palmier, une des rares merveilles de ce genre trouvées par moi dans les divers voyages que j'ai faits en ces régions. J'avouerai pourtant avoir vu quelques autres plantes semblables, mais de dimensions bien moins importantes. Une fois notre campement installé, j'envoyai le drogman vers les indigènes les plus rapprochés de nous pour les engager à nous fournir, moyennant échange, comme à l'ordinaire, les choses dont nous avions besoin. Mais ils s'y refusèrent et ajoutèrent même que nous eussions à nous éloigner si nous ne voulions pas qu'ils vinssent nous y forcer. Le petit nombre de gens armés dont je pouvais disposer me conseillait d'éviter autant que possible toute contestation. Mais songeant, malgré les difficultés de la position, que dans ces pays neufs la trop grande prudence, que l'on prend pour la crainte, a encore plus d'inconvénients que l'audace, je fis former un groupe des marchandises et des noirs, et les confiant à la garde de 5 de mes soldats, je m'avançai avec les autres vers le village, et je fis intimer par mon drogman l'ordre aux habitants d'avoir à me fournir ce que je leur demandais, moyennant paiement, et les menaçant en cas de refus de brûler leurs habitations. Par bonheur, leur chef, soit qu'il craignît les effets de cette menace, soit qu'il n'eût pas été d'abord consulté, répondit qu'il n'avait nullement refusé notre demande et que si nous voulions retourner à notre camp, on nous y porterait ce dont nous avions besoin. Ils le firent en effet, et bien mieux. Quand je leur eus acheté un beau bœuf au prix de 10 œufs de pigeon, verroterie de la valeur de 2,50 francs, ils s'empressèrent de venir avec leurs femmes préparer le dîner de mes gens. Ils nous offrirent de l'acida, espèce de polenta faite de farine de daubne, grain excessivement fin, assez semblable à notre panicot, mais beaucoup plus blanc et plus doux. Enfin, ils se trouvèrent bientôt si bien traités par nous que non seulement les hommes venaient sans armes nous porter des fèves, des haricots, du lait, des poulets et des œufs, mais que les femmes et les enfants ne craignaient pas de rester parmi nous, nous observant avec stupéfaction. Ce qui les étonnait surtout, c'était de nous voir abattre au vol les oiseaux qui sautillaient par bandes d'arbre en arbre, et ils ne comprenaient pas comment d'un bâton, c'est ainsi qu'ils appelaient les fusils, pouvaient sortir du feu, de manière à y abattre une dizaine de bestioles à chaque coup. Comme la place était agréable, et que nous étions fatigués des marches précédentes, je me décidai à y passer la nuit. Je partis le lendemain, 31, de grand matin, et notre caravane fut pendant plus d'une heure escortée par un grand nombre d'indigènes. Ce fait me confirme dans l'opinion que, s'il en avait, dans le principe, agi avec douceur avec eux, ces malheureux ne seraient pas devenus si hostiles aux Blancs et à leurs adhérents, comme ne les ont que trop forcés les mauvais procédés des négociants généraux, qui ont fait, à peu d'exception, du commerce dans ces contrées, un véritable brigandage. Pauvre humanité. Le 1er janvier 1857, je poursuivis mon voyage à travers le territoire des Adjaks. Des routes, des cultures, des villages rendaient désormais le pays plus agréable, et malgré la chaleur qui montant à 31 degrés Réaumur ne descend jamais au-dessous de 28, nos fatigues étaient beaucoup moindres, grâce aux puits qui se trouvaient à des distances peu éloignées, et nous permettant de nombreux repos, rendaient nos marches moins pénibles que les premiers jours. Le 2 à l'aube, nous quittâmes le village où nous avions passé la nuit. Nous traversâmes une série de ces petits bois qui abondent en tout le Bahr-el-Ghazal, et qu'une végétation vraiment tropicale et la beauté des arbres qui les composent rendent si agréables, et vers 11 heures du matin nous atteignîmes l'établissement de M. John Patrick, Esquire, agent consulaire britannique, dont j'étais alors le représentant. Notre arrivée fut saluée de nombreux coups de fusil par ces gens, qui, se trouvant là depuis un an, avaient pour nous accueillir avec plaisir plusieurs raisons, dont la moindre n'était pas de se voir renforcé d'un certain nombre d'hommes armés et dispos. Cet établissement est situé juste au milieu d'un grand village des Djour ou Djour. Nous avions à l'ouest la route qui conduit chez les Dor, la race rouge, dont je parlerai plus loin. Au nord, le grand territoire des Djour, à l'est, le pays des Dinka, déjà traversé, et au sud et au sud-ouest, les Rôles, qui s'étendent jusqu'au fleuve Blanc, où sont situés les établissements de M. de Malzac, négociant français. D'après les renseignements que nous fournirent les Noirs, il fallait 12 jours de voyage au plus pour les atteindre. J'étais donc arrivé dans l'intérieur du Bahr-el-Ghazal, dans une contrée tout à fait sauvage, dont je ne connaissais ni la langue ni les usages. Qui m'eût dit en avril 1855, quand je quittais l'île, que non seulement je serais venu dans le Soudan, mais encore que j'aurais pénétré plus loin, et dans quel pays, bon Dieu ? Je dois rendre grâce au ciel d'avoir trouvé dans mon ami Pefrig le meilleur guide qu'il soit possible de rencontrer. C'est à lui et à ses conseils que je dois d'avoir pu retourner sain et sauf dans ce pays, puisqu'ils m'ont guéri d'une suite de fièvres des plus violentes qui avaient toutes les dispositions du monde à devenir cérébrales. Dès notre arrivée à l'établissement, et après un jour de repos à peine, nous dûmes nous occuper de faire partir, dans diverses directions, des expéditions de nos gens à la recherche de l'ivoire. M. Pefrig, me trouvant peut-être trop nouveau encore dans le pays, ne me permit pas d'être de la partie. Mais, me chargeant d'expédier par les barques l'ivoire existant à notre arrivée dans l'établissement, et me laissant avec 8 soldats la garde de celui-ci, il partit avec le reste de notre monde divisé en plusieurs groupes dirigés sur divers points. À vrai dire, pour mon premier voyage, j'aurais préféré faire partie de l'expédition que de rester seul à l'établissement avec 8 soldats, 2 drogman et 2 domestiques au beau milieu de Bahr el-Ghazal. J'avoue donc franchement que mes premières journées furent peu de mon goût, mais elles suffirent, en me forçant à observer les choses, à me faire comprendre clairement la situation nouvelle où je me trouvais placé. Je profitai de l'occasion, et voici comment. Je commençai par me renseigner près des drogman de l'allure des choses qui m'embarrassaient le plus, et tout bien pesé, je crus utile d'établir les règles suivantes, tant pour le bon ordre intérieur de l'établissement que pour les relations pacifiques que je désirais maintenir avec les indigènes. Premièrement, il était sévèrement interdit à tout noir de pénétrer dans l'intérieur de l'établissement avec des armes ou des bâtons ferrés. Deuxièmement, les ventes ou échanges devaient se faire en dehors de l'établissement, sous quelques tamarins qui ombrageaient d'ailleurs délicieusement une place située à quelques pas de l'entrée. Troisièmement, chaque soldat devait se tenir constamment prêt, en cas d'attaque, et 2 sentinelles, placées chaque nuit à la porte, étaient obligés, afin qu'il leur fût impossible de dormir, d'entretenir un feu continuellement allumé. Quatrièmement, le chef du village, Akondit, était chargé de pourvoir à tous les besoins de l'établissement, et il faut avouer qu'il se montrait toujours prêt à tout. C'est bien le meilleur chef auquel nous ayons eu affaire, et il donnait, quand il s'absentait, les ordres les plus sévères à ses fils pour l'exécution de toutes les conventions faites entre nous. Ces dispositions prises, et voyant que tout marchait à souhait, je songeais à faire charger l'ivoire dans les barques ainsi que me l'avait recommandé M. Pefrig. Notre zeriba, notre établissement, était une enceinte carrée de plus de 200 pas de côté, formée d'épines et de troncs d'arbres, de la grosseur des 2 bras au plus. Elle se composait de 22 cases, y compris le grand magasin de dépôt. Devant la porte, croissaient quelques tamarins sous lesquels se faisaient les transactions avec les indigènes. L'établissement lui-même était entouré par les toukouls, les cases, des noirs, mais à une distance de 20 pas, à l'exception de celle du chef, qui était très voisine des nôtres, mais toujours en dehors de notre enceinte. Les indigènes sont de la tribu des Djours, ou Chelouks, qui est une des plus grandes qui habite l'intérieur du Bahr el-Ghazal. Elle est en guerre continuelle avec les Dors, dont je parlerai plus tard. Ceux-ci sont en effet privés de bestiaux et doivent s'en approvisionner chez les Mondjians, les Dinka, qui en possèdent beaucoup, surtout à cornes, et avec lesquels ils guerroient pourtant sans cesse. Les Djours, comme la plupart des Noirs, ne chassent pas volontiers l'éléphant, mais ils creusent d'énormes fosses, couvertes de petits bâtons cachés eux-mêmes par de la paille. Presque toujours, ces fosses sont situées sous quelque aiglig ou arbre de l'éléphant, cet animal étant en effet très friand de son feuillage. Quand un éléphant passe par ce labyrinthe de fosses, il est bien rare qu'il en puisse sortir. À 2 heures de marche de la Zeriba, en se dirigeant vers l'ouest, le terrain commence à devenir d'un rouge brique et un peu au-delà se trouve le village appelé Medjadama, où finit la race noire et où commence la race rouge des Dors.